7h30 en temps universel, une heure de plus ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
Afrique Soir.
Voici une nouvelle demi-heure d'information. C'est avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe Le Caplan. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, en République démocratique du Congo, les combattants du M23 appuyés par des militaires rwandais progressent sur le front du Sud Kivu. Des sources humanitaires et sécuritaires signalent la présence de combattants du M23 effectivement à l'aéroport de Kavumu, situé à 35 km au nord de Bukavu. Il est urgent d'agir pour arrêter les velléités expansionnistes du Rwanda en RDC. Ce sont en substance les mots de Félix Tshisekedi. Le président de la RDC s'exprimait lors d'une intervention à la conférence de Munich sur la sécurité. Nous l'entendrons dans un court instant. À la une également en Côte d'Ivoire, verdict du procès en appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam. Perpétuité confirmée pour 4 accusés reconnus coupables de complicité d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat et acte terroriste. Leurs avocats ont annoncé ce pourvoi en cassation. Et puis, un rapport sur la tragédie survenue le 1er décembre au stade de Nzérékoré, capitale de la Guinée forestière. Bousculade meurtrière lors d'un tournoi de foot. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 140 selon le rapport d'un collectif d'organisation de défense des droits humains.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et en République démocratique du Congo, les combattants de l'AFC M23 sont donc arrivés à l'aéroport de Kavumu, à 35 km au nord de Bukavu. Une progression rapide qui a provoqué une onde de choc dans la région. À Bukavu, la tension est palpable. Pendant ce temps, depuis Munich, Félix Tshisekedi reste ferme. Pas de dialogue avec l'AFC M23. Patient Ligodi, le président congolais, accuse aussi le Rwanda d'être derrière ces combats et pointe également du doigt son prédécesseur Joseph Kabila.
L'AFC M23 a atteint l'aéroport de Kavumu en fin de matinée après une progression rapide. Des tirs qui secouaient la zone dont la matinée ont cessé un peu plus tard. À Bukavu, à une trentaine de kilomètres, la tension est montée d'un cran. C'est une ambiance de ville morte toute la journée selon plusieurs témoins. Commerce, école et administration ont fermé précipitamment. L'après-midi, pas de circulation, les habitants rentraient à pied. Quelques coups de feu sporadiques ont été entendus dans certains quartiers. Des militaires visibles dans les points stratégiques de la ville ont renforcé leur présence, notamment à Niawera. En milieu de journée, le commandant de la 33e région militaire a effectué une patrouille dans la ville.
Je vous le disais, le président congolais a dénoncé ce vendredi les velléités expansionnistes du Rwanda dans son pays. Il s'exprimait lors d'une intervention à la conférence de Munich sur la sécurité pour Félix Tshisekedi. Il est urgent d'agir.
Aujourd'hui, nous n'attendons plus de simples mots. Nous exigeons des actions décisives. Le statu quo est une illusion. Ne rien faire, c'est déjà choisir. Et ce choix, s'il perdure, aura des répercussions bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Car si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain, et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos.
Voilà les mots du président congolais Félix Tshisekedi, alors que la situation dans l'est de son pays est au cœur de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se déroule en ce moment même en amont du sommet annuel des chefs d'État. Félix Tshisekedi sera représenté par sa première ministre, Judith Suminwa. Florence Maurice, envoyée spéciale sur place, vous êtes à Addis Abeba. Que faut-il attendre, Florence, de cette réunion du CPS?
Oui, réunion en cours à huis clos. Écoutez, deux crises sont à l'agenda de ce Conseil, la guerre au Soudan et l'Est de la RDC. Et dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat n'a évoqué que le Soudan. Pas un mot sur la RDC, signe sans doute de la tension qui règne alors que la situation se dégrade sur le terrain. Les autorités congolaises continuent d'espérer une condamnation explicite du Rwanda par l'Union africaine. La SADC et la CEAC pourraient plaider en ce sens, mais rien n'est gagné. Jusqu'à présent, l'UA s'est toujours gardée de mentionner explicitement le Rwanda dans ses communiqués. Selon nos informations, le projet de résolution qui est soumis ce soir à discussion consiste essentiellement à entériner au niveau du continent la position issue du sommet conjoint de Dar es Salaam. Le Rwanda n'y était pas cité. L'autre question, c'est celle du processus de médiation pour sortir de la crise. L'Union africaine pourrait acter la fusion des processus de Luanda et Nairobi et décider de confier le dossier à un panel de facilitateurs plutôt qu'à un médiateur unique. C'était donc l'une des recommandations du sommet de Dar es Salaam, d'autant que João Lourenço prend la présidence tournante de l'Union africaine et a fait savoir qu'il n'excluait pas de passer la main.
Florence Maurice en direct d'Addis Abeba, et c'est dans ce contexte d'intensification des combats dans l'Est de la RDC que Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, appelle les États africains à se mobiliser pour résoudre la crise.
Pour nous, le cessez-le-feu doit être observé obligatoirement, comme cela a été décidé par deux communautés économiques régionales. Et je crois que ça va être réaffirmé aujourd'hui au niveau du Conseil Paix et Sécurité. Il faut absolument aller vers ce qui a été convenu, vers un dialogue pour la résolution de ce problème. Ce ne sont pas les campagnes militaires qui vont résoudre ce problème. Inévitablement, il faut nécessairement aller dans le sens du dialogue. Je crois qu'il y a une mobilisation aujourd'hui générale de l'Afrique sur cette question. J'espère qu'on pourra arriver à imposer ce cessez-le-feu et engager le dialogue dans ces pays.
Voilà, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine. Un appel donc aux chefs d'État africains à se mobiliser donc pour résoudre cette crise. On y revient dans nos prochaines éditions.
Afrique Soir sur RFI.
Dans le reste de l'actualité africaine de ce vendredi en Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a confirmé cet après-midi la condamnation à perpétuité pour 4 personnes impliquées dans l'attentat terroriste survenu dans la station balnéaire de Grand Bassam. C'était en mars 2016. Attentat qui avait coûté la vie à 19 personnes. Les 4 accusés ont donc été condamnés pour complicité d'assassinat et complicité d'actes terroristes. Compte rendu d'audience, Binta Diagne.
La cour d'appel a suivi les réquisitions du parquet. Elle acquitte les accusés concernant la détention d'armes de guerre, mais elle confirme les autres charges, à savoir complicité d'actes terroristes et complicité d'assassinat. La cour d'appel confirme la condamnation à une peine de prison à vie pour les 4 accusés. Il y a là un chauffeur, une personne ayant hébergé le cerveau de l'attentat et 2 personnes accusées d'avoir aidé au repérage des lieux et au convoyage des armes. À l'énoncé de ce verdict, les 4 accusés étaient effondrés. « Je ne suis pas un terroriste », a crié l'un d'eux au moment de quitter le tribunal sous escorte policière. Leur avocate, Maître Thérémé Diaby, estime qu'il n'a pas été prouvé que ses clients avaient connaissance du projet d'attentat fomenté par Kuntadala, le cerveau de cette opération, lors de leur prise de contact. La défense a l'intention de se pourvoir en cassation. Quant aux parties civiles, elles expriment leur soulagement. Maître Amadou Camara demande à l'État de se porter garant et de trouver les fonds nécessaires pour indemniser les victimes des attentats terroristes. En effet, en première instance, le tribunal avait établi entre 10 et 30 millions de francs CFA le montant des réparations à verser à chaque victime, mais ces fonds ne sont pas disponibles, déplore l'avocat des parties civiles. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Guinée, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Nzérékoré a publié ce matin son rapport d'enquête sur la tragédie survenue le 1er décembre dans le plus grand stade de la capitale de la région forestière. Une bousculade meurtrière lors de la finale d'un tournoi de foot organisé à la gloire du président de transition, Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel, au moins 3 fois plus selon le collectif des ONG qui pointe une volonté de dissimuler la vérité. Les précisions de Sidi Yansane.
Dans leur rapport de 44 pages, les défenseurs des droits humains de Zérékoré soulignent d'emblée une responsabilité de l'État à tous les niveaux, du président de la délégation spéciale au secrétariat de la présidence, en passant par les ministres, les préfets et les forces de l'ordre. Le stade était archi-comble. Au-delà de ses capacités d'accueil, plus de 10 000 spectateurs pour une sécurité très insuffisante, dit le rapport. Des véhicules déployés dans la région pour transporter gratuitement les supporters, généralement mineurs, des rumeurs attestant que le célèbre artiste Grand P et le général Doumbouya lui-même seront présents, le tout pour un seul objectif, que le monde entier voit que le président Doumbouya est plébiscité, rapporte le document, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Mais les organisations déplorent surtout la totale opacité des investigations menées par le gouvernement, qui n'a jamais communiqué depuis la mise en place d'une commission d'enquête. Gouverneur, préfet, mairie, gendarmerie, police, procureur, tous se renvoient la balle. Le rapport affirme aussi que des autorités religieuses et administratives ont encouragé des familles à ne pas se faire enregistrer comme victimes, ni même communiquer sur la tragédie et de s'en remettre à Dieu.
Joint par RFI, le procureur général de la cour d'appel de Cancan a affirmé que c'est au ministre de la Justice de s'exprimer sur le sujet. RFI a tenté de joindre sans succès le garde des Sceaux et le ministre des Sports. En attendant, je rappelle que le premier bilan provisoire des autorités n'a pas évolué depuis le 2 décembre. Il est toujours de 56 morts. Le rapport d'enquête des ONG de la région forestière parle lui de 140 morts. Maître Christophe Labillé-Conné est le porte-parole d'Avocats sans frontières. Il est l'un des auteurs de ce rapport. Il était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr.
Bien sûr que oui, il pourrait y en avoir davantage, plus de morts, mais nous n'avons pas d'informations précises sur ces éventuels cas. Voilà pourquoi nous nous focalisons sur les 140 morts dont on a toutes les informations.
Vous dénombrez également 11 disparus. Comment expliquez-vous qu'on n'ait pas retrouvé les corps ?
Bon, ça va être un peu difficile d'expliquer parce que quand il y a eu la tragédie, la plupart des personnes décédées ont été transportées à l'hôpital régional de Zérékoré, qui avait une capacité quand même limitée. Et des sources concordantes, il nous a été dit aussi que d'autres corps avaient été conduits dans le camp militaire de Zérékoré. Mais quand les enquêteurs étaient sur le terrain, il ne leur a pas été permis de vérifier les corps qui ont été envoyés sur le camp militaire. Nous parlons de disparus parce qu'il y a des parents des victimes qui, à ce jour, n'ont encore pas vu leur enfant, alors qu'ils étaient partis au terrain. Et les enquêteurs ont dénombré 11. Il pourrait y avoir aussi plus, mais c'est les 11 qui ont été dénombrés. Bon, donc, si ces personnes-là n'ont pas été trouvées parmi les blessés, parmi les morts, c'est qu'ils sont portés disparus pour l'instant.
Mais ils seraient où, ces corps ?
Nous n'avons pas d'informations, d'autant plus que les corps qui avaient été envoyés, comme je le disais tantôt, au camp militaire, n'ont pas été identifiés.
Alors, votre enquête a été difficile. Aucun organisateur ou officiel n'a voulu vous parler. Y a-t-il, selon vous, volonté de dissimuler la vérité ?
Oui, il y a volonté, bien entendu, de dissimuler parce que nos enquêteurs, quand même, ont voulu rencontrer toutes les parties prenantes, y compris les organisateurs et les autorités administratives et militaires. Mais ils se sont focalisés pour ainsi dire aux enquêteurs que il y a une enquête qui a été ouverte, donc il fallait se contenir au résultat de cette enquête. Qui, on ne voit pas venir les conclusions.
Et pourquoi cette omerta, selon vous ? Dans quel but dissimuler la vérité ?
Bon, bien évidemment, c'est que on ne veut pas faire connaître la réalité parce que ce qui est arrivé pendant la finale de ce tournoi-là, comme nous le qualifions, c'est une tragédie. On ne veut pas montrer à l'opinion nationale et internationale ce qui est réellement arrivé. Mais nous déplorons quand même cet état de fait parce que pour ne pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faudrait mener une enquête sérieuse pour qu'on puisse circonscrire ce qui est arrivé et enfin de prévenir à l'avenir quand on aura des organisations à faire dans la région ou dans les régions environnantes.
Pour que plus jamais un tel drame ne se produise.
Bien sûr, ça c'est l'importance de notre enquête. Et en plus, il faudrait aussi que ceux qui ont commis de près ou de loin et quelques infractions en plus de répondre de leur fait.
Maître Christophe Labillé-Conné, porte-parole d'Avocats sans frontières, au micro de Nicolas Sûr. Le Gabon et cette question, où est passé Hervé Patrick Opianga, ancien proche du président de la transition Brice Clotaire, Oligui Nguema, qui est tombé en disgrâce. En novembre dernier, son parti avait appelé à voter contre la Constitution. Quelques jours après, il était face à la justice pour une affaire de mœurs, selon le procureur de la République. Hervé Patrick Opianga, actuellement en fuite, est poursuivi par son épouse, son ex-épouse, pour inceste et viol de sa propre fille. Après des vérifications au tribunal, son parti a constaté que la plainte a été déposée plusieurs jours après l'action judiciaire contre Monsieur Opianga. Dans une déclaration jeudi à Libreville, son parti demande un non-lieu afin que son président revienne sur la scène politique. À Libreville, le récit d'Yves Laurent Goma.
Le parti d'Eve Patrick Opianga est formel. Son président a été traqué, son domicile et ses bureaux fouillés, son frère et sa fille interpellés, puis gardés à vue pendant environ une semaine sans motif. La plainte qui a déclenché cette tempête contre lui a été déposée près d'une semaine après, ce que ne comprend pas Georges Bopenga, porte-parole du parti.
Nous demandons un non-lieu parce que la poste ne repose sur aucune preuve légale. Nous restons fermes et convaincus, avec les preuves que nous avons, que le procureur de la République agit sans avoir en sa possession une plainte contre notre président.
Hervé Patrick Opianga est poursuivi par son ex-épouse Lucie Biloguet pour séquestration de mineurs, inceste et viol de leur propre fille. Maître Ange Kevin Zigou, avocat de Lucie Biloguet, explique.
Le fait de s'être constitué partie civile après le déclenchement de l'action publique n'est en rien illégal. Monsieur Opianga sait parfaitement le déroulé de la procédure. Donc le non-lieu qui est demandé par son parti ne se justifie pas. Son parti devrait se contenter d'espérer que Monsieur Opianga soit face à une justice libre.
Hervé Patrick Opianga, qui dénonce un harcèlement judiciaire, a préféré fuir. Il vit caché depuis novembre. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et actualité plus légère à présent du basket, c'est le début d'un week-end de gala aux États-Unis. Comme chaque année, la NBA organise son All-Star Game, un match qui oppose les meilleurs joueurs de la prestigieuse ligue américaine. Il aura lieu dimanche. En attendant, ce soir, ce sont les meilleurs jeunes du championnat qui vont s'affronter. Yves Missi devait y participer, mais le Camerounais vient de déclarer forfait. Victor Missistrano.
Sa sélection sonnait comme une évidence et devait récompenser ses excellents débuts en NBA. Yves Missi doit finalement renoncer. Blessure sans gravité, mais cette hyperextension du genou subie hier lors du match des Pelicans contre Sacramento prive le Camerounais du Rising Star Challenge. Il se faisait un plaisir d'y participer. À 20 ans, le rookie ou joueur dont c'est la première saison s'affirme comme l'un des tout meilleurs de sa promotion. Arrivé l'été dernier à la Nouvelle-Orléans, le pivot de 2m11, très aérien, a apporté sa dimension athlétique et a immédiatement décroché une place de titulaire. Yves Missi affiche des statistiques solides, plus de 8 points et 8 rebonds par match en moyenne. Avant sa sélection parmi les meilleurs jeunes, il s'était vu remettre le trophée de rookie du mois de décembre. Pas de All-Star Game donc, mais dès son retour au parquet, il va pouvoir se concentrer sur la fin de saison et s'il continue sur ses bonnes bases, Yves Missi pourrait devenir dans quelques mois le tout premier Africain élu rookie de l'année en NBA.
Et puis, ça ne vous aura pas échappé, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, l'occasion de montrer son amour et son affection à son ou à sa partenaire de vie. Entre fleurs et chocolat, la célébration demande parfois toute une organisation, surtout dans les foyers polygames. Alors, comment célébrer la fête des amoureux lorsqu'on en a plusieurs? Éléments de réponse avec Willy Diallo.
Pour la Saint-Valentin, la tradition est bien ancrée. L'homme offre des fleurs, du chocolat ou des bijoux et d'autres attentions à son amoureuse. Mais pour les couples polygames, ça demande un peu plus de réflexion. Ibrahim a deux épouses, l'une habite en Guinée et l'autre au Sénégal. Pour lui, tout est question d'organisation et d'égalité.
Le cadeau que je donne à celle qui est là, c'est ce que je donne à l'autre qui est là-bas. Le même genre de cadeau, le même type, c'est la même chose, aucune différence. Mais elle n'a chacune selon son coût, on voit le cadeau qu'elle peut. L'autre ne sait pas ce que j'ai reçu de l'autre, etc. Vice-versa. Parce que la polygamie, hein, c'est un jeu d'acrobates et d'équilibristes.
Il y a donc les partisans de l'égalité, comme Ibrahim, et ceux qui ont décidé de s'en tenir strictement aux règles. Dans un foyer polygame, l'homme passe du temps avec ses femmes en fonction d'un planning décidé en famille. Pas d'exception pour la Saint-Valentin. Pour Ami, deuxième femme dans son foyer, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est beaucoup plus simple.
À l'occasion de la Saint-Valentin, il n'y a pas de problème. Parce que si ça tombe qu'il est chez toi, alors la fête est chez toi. Si ça tombe qu'il est de l'autre côté aussi, il fait la fête là-bas, il n'y a pas de souci normalement. Mais je sais que même quand il n'est pas chez toi, qu'il est de l'autre côté, il joue le rôle qu'il doit jouer toujours. En offrant ce qu'il doit offrir. Parfois, on pense que les foyers polygames sont des foyers très difficiles. Pourtant, je pense que ce n'est pas aussi difficile que ça.
En Afrique de l'Ouest, selon l'agence de statistiques américaine, ce sont 30 à 40% des femmes qui sont mariées en union polygame.
RFI, 18h49 en temps universel. Et on parle maintenant de la mobilisation contre l'épidémie de choléra au Soudan du Sud, épidémie qui dure depuis octobre 2024. Initialement déclarée au Soudan voisin, où un conflit armé fait rage, l'épidémie s'est propagée vers le Soudan du Sud. Plus d'un million de personnes fuyant cette guerre sont en effet arrivées dans le pays. Le choléra est d'abord apparu dans la zone frontalière, puis s'est rapidement propagé sur presque l'ensemble du territoire. À ce jour, près de 27 000 cas de personnes touchées, dont 455 décès. Premier volet de notre série sur la lutte contre le choléra au Soudan du Sud, un reportage de Florence Nieto.
Vêtus de combinaisons intégrales, les employés en charge de la désinfection pulvérisent de l'eau chlorée sur les semelles des visiteurs, sur le sol et sur les lits. Nous sommes à Gourée, dans la banlieue ouest de Djouba, où l'épidémie de choléra n'est pas encore terminée. Jusqu'à 8 patients sont admis quotidiennement dans cette unité de traitement du choléra gérée par l'ONG Médecins Sans Frontières, une grande tente blanche d'une capacité de 10 lits. L'infirmier Gouta Epulo constate le manque d'accès à l'eau propre dans cette partie de la capitale sud-soudanaise.
Le choléra est une maladie causée par une bactérie. Elle se propage par l'eau ou les aliments contaminés, généralement à cause du manque d'hygiène et d'assainissement. Une fois que vous avez le choléra, vous commencez à vomir beaucoup et à avoir une diarrhée aqueuse continue. C'est dangereux car vous perdez beaucoup de liquide corporel et pouvez mourir en quelques heures.
Hawati Adjong, 27 ans, et son mari Saber Djuma, 33 ans, se désinfectent les mains avant de rentrer chez eux. Hawati est tombée malade la première, a été soignée, puis c'est son mari qui a développé les symptômes.
C'était le matin. Mon mari allait partir au travail. Il est allé aux toilettes 3 ou 4 fois, et puis il a commencé à vomir, et ensuite il ne pouvait plus bouger. C'est lui qui m'avait accompagnée ici quand j'étais malade. Il s'est occupé de moi. J'ai su tout de suite qu'il avait attrapé le choléra à son tour. J'ai donc appelé à l'aide et on l'a amené ici hier.
Pour elle, la cause est évidente.
Nous buvons le plus souvent l'eau d'un puits creusé dans la terre. Je pense que c'est ça qui nous a rendus malades.
À l'intérieur de la tente, Daniel Kenny, un garçon de 4 ans, reçoit une perfusion de réhydratation. Arrivé très mal en point, en à peine une heure, il est à nouveau capable de se tenir assis, au grand soulagement de sa mère, Seredjin Akeji, qui veille sur lui, son bébé de 8 mois dans les bras.
Je m'inquiète pour mes autres enfants. Tout ça, c'est à cause de notre environnement qui est sale. Il faut faire très attention pour bien nettoyer la vaisselle, la laver après l'avoir touchée, la sécher et la couvrir pour éviter que les mouches ne se posent dessus.
Le personnel médical souligne l'importance d'une prise en charge rapide du choléra. Car si les 270 patients soignés ici par MSF ont survécu, 9 personnes sont mortes de la maladie chez elles dans les quartiers avoisinants ces dernières semaines. En cause, des traitements inadéquats et trop tardifs. Florence Mieto, Djouba, RFI.
À l'écoute de Radio France Internationale, il est 19h52 à Paris. Et direction le Cameroun où l'artiste Salatiel célèbre ses 10 ans de carrière avec un concert géant au stade Molico de Bouéa dans le sud-ouest. Des artistes de renom comme Loco ou encore Renew l'accompagnent sur scène. En 10 ans de carrière, Salatiel a sorti 3 albums et plusieurs hits dont Anita. Le reste, c'est Richard Onanena qui raconte. Pourquoi la vie était si
compliquée ? Anita, sortie en 2019, visionnée plus de 16 millions de fois sur YouTube, va sonner différemment ce soir au stade Molico de Bouéa où Salatiel célèbre ses 10 ans en ce jour dédié à l'amour.
En 10 ans, je dirais, on a grandi, on a évolué, on a appris.
Salatiel définit ses 10 ans de carrière comme une période d'apprentissage, tant dans sa vie d'artiste que personnelle. En 10 ans, il est devenu papa, un family man, comme le titre de son album, le 3e, sorti l'an dernier.
En 10 ans, j'ai eu des enfants. Je pense que ce processus de maturation, c'est ça qui a changé. Et les 10 ans qui arrivent seront 10 ans de beaucoup d'expérience.
À Salatiel, le public a donné le surnom de Highman Général, car le chanteur est à la base un producteur reconnu qui a participé à l'émergence de plusieurs stars locales et continentales, à l'instar de Daphné et Mr. Leo.
Je suis honoré même d'être ce vase par lequel quelque chose de positif peut se transférer à la société. Il y a des enfants aujourd'hui qui font la musique parce qu'ils nous ont vu évoluer.
Le choix de Bouya pour ses 10 ans de carrière n'est pas anodin puisque c'est dans cette ville que tout a commencé pour lui. Salaciel veut également être une voix pour la paix dans une région où sévit la crise anglophone. Et pourquoi pas rapprocher les peuples par sa musique. Jaona Mena, Yaoundé, RFI.
Pas changé, et ton sourire n'a même pas fané. On se regarde dans les yeux, mais qui agira le premier?
Viens, ça, mon éminga, moi je veux te parler. Maman, si c'est un bas bébé, si ça moule ma ébole, pas ni nwenge. Longue dit bois ni nwenge.
Ça, mon éding, tu peux pas t'en aller. Comme, la son a dit quoi les, nous ça moule ma ébole, pas ni nwenge.
RFI, 19h55 à Paris. Dans un court instant, un nouveau journal sur la radio mondiale. Juste après, ce sera Ici l'Europe, émission coproduite par RFI et France 24. Caroline de Camaret reçoit Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, chargé de la politique industrielle et des services du numérique, de la défense et de l'espace. En cette semaine où l'Europe s'interroge sur la stratégie à adopter face à l'agressivité du président américain Donald Trump, agressivité sur toutes sortes de sujets, allant des droits de douane à la défense, en passant par l'intelligence artificielle. L'ancien ministre français de l'économie nous parlera de sa position depuis cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine à propos du conflit en Ukraine.
L'Europe doit dire que ça doit se passer évidemment avec elle et avec Volodymyr Zelensky. C'est absolument indispensable et j'espère que l'Europe va enfin le dire et le faire savoir et se donner les moyens aussi.
Thierry Breton au micro de Caroline de Camaret dans Ici l'Europe, c'est à 19h10 temps universel et puis à 19h40 temps universel. Pourquoi RFI dit ça? Direction les États-Unis cette semaine, depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine, il y a du changement dans la salle de presse de la Maison Blanche et les journalistes étrangers notamment en font les frais. Alors la presse étrangère est-elle fragilisée dans l'Amérique trumpienne? Juliette Rangeval a posé la question à Sonia Dredi, correspondante à Washington pour France 24.
Il y a des personnes dans l'administration Trump qui aimeraient voir la presse étrangère être dégagée, tout simplement, pour faire plus de place aux médias complaisants avec le pouvoir. Mais Donald Trump se sert de nous aussi pour faire passer des messages au reste du monde. Il prend souvent des questions de la presse étrangère. Au sein de la Maison Blanche, pour l'instant, on n'a pas l'impression d'être directement en danger, même si on sait que notre position est beaucoup plus fragile.
Eh bien, la suite, c'est dans Pourquoi RFI dit ça, présenté par Juliette Rangeval, et c'est à 19h40, temps universel. Enfin, vous retrouverez à 20h10, temps universel, couleur tropicale. Claudie Ciard invite ce soir Tatiana Cruz et Babani Koné. La diva de la musique malienne Babani Koné, à l'occasion de sa venue à Paris pour le concert de Sidiki Diabaté qui a eu lieu le 8 février à Paris, la Défense Arena. Et la chanteuse congolaise Tatiana Cruz pour présenter son nouvel EP, Pignata, un projet conçu pour faire danser tout en racontant des histoires. Écoutez, tournez.
Toujours dans le temps, c'est ton cœur qui fait la mélo. Léche dans le vent, dans tes têtes ou sur un vélo. Il y a l'amour entre nous, piétine mon cœur sans te souder. Mais laisse pas dans le flou, touche ma poitrine comme un collier. Je t'ai saoulé, saoulé, j'aime te coller, coller. Mais te faire tourner, tourner la tête, tourner, tourner. Ouais, tourner, 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 tourner. Tourner, 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 tourner.
C'est fascinant, ton absence est un châtiment.
Voilà, Tatiana Cruz qui vous donne rendez-vous à 20h10 temps universel, donc couleur tropicale. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans moins d'une minute maintenant un nouveau journal. Journal largement consacré à l'actualité dans le reste du monde.
C'est un châtiment. Gentiment, je hurle ton nom dans le silence. Je pars pas en quête de l'homme antique.
L'atelier des médias. Steven Jambot.
En France, les idées d'extrême droite ont envahi les débats politiques et médiatiques. La fachosphère, née sur Internet et les réseaux sociaux, se serait frayée aussi un chemin dans les médias, notamment ceux détenus par le milliardaire français Vincent Bolloré. C'est ce que racontent les journalistes Maxime Massé et Pierre Plotu, auteurs du livre Pop Fascisme. Ils sont mes invités dimanche à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias.